On ne meurt pas seulement les uns pour les autres, mais les uns à la place des autres, qui sait. Et cela me semble fondamental pour voir l'apostolat de l'Église. Dans l'Église, il y a ceux qui réussissent, qui donnent l'impression de réussir. Tout leur va. Quand ils entreprennent quelque chose, ça va très bien. Et puis il y a ceux qui réussissent beaucoup moins bien, ou qui ne réussissent plus, et qui sont, à mon avis, les véritables pilotis de l'apostolat de l'Église. Je vais en donner deux exemples. C'est fondamental. Ça permet à ceux qui réussissent de ne pas tomber dans la vanité, et à ceux qui ne réussissent pas de ne pas tomber dans le désespoir. Je prends deux exemples. Le premier, c'est celui du Père Leuve, ce merveilleux apôtre, l'un des premiers prêtres ouvriers de France, débardeur sur le port de Marseille, qui s'est converti à l'âge de 20 ans en voyant des cristaux de neige arriver sur une soucoupe dans son balcon de sanatorium en Suisse. Il a été cofondateur de l'école de la foi à Fribourg, il a fondé une petite congrégation missionnaire Saint-Pierre-Saint-Paul, etc. Un merveilleux apôtre qui est en train de terminer ses jours à l'abbaye d'Échourgnac dans le Périgord. Un jour, sa maman lui a dit « Jacques, tu vas à Rome ? Ça me ferait bien plaisir que tu ailles saluer de ma part une religieuse que j'ai connue dans mon enfance et que je n'ai pas vue depuis bien longtemps. » Pour faire plaisir à sa maman, Jacques Leuve est allé saluer cette religieuse qui lui a confié « Mon père, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais osé dire à votre maman. Quand j'ai reçu le faire-part de votre naissance, je me suis dit que Madame Leuve ne pourrait donner aucune éducation religieuse à son gosse, puisqu'elle était incroyante. Alors, dans ma ferveur de jeune religieuse, qu'est-ce que j'ai prié pour vous, mon père ? Eh bien, je vois que ma prière a été exaucée. Le petit Jacques s'est converti. Quand on arrivera dans le ciel, on s'apercevra que toutes les grâces dont le Père Leuve aura été le médiateur s'enracinent dans la prière et la générosité de cette petite religieuse de rien du tout, dont l'histoire de l'Église ne retiendra pas le nom, mais qui sera à la source, qui aura été à la source de l'apostolat du Père Leuve. J'ai envie de vous donner un exemple encore plus frappant. Vous avez sans doute entendu parler de Monseigneur Charles, ce fondateur du centre Richelieu à la Sorbonne après la guerre, qui a eu un succès extraordinaire, qui a eu entre autres comme étudiant, Monseigneur Lustiger et Monseigneur Gaucher, et qui a été ensuite pendant plus de 20 ans recteur de la basilique de Montmartre à Paris. Carolus Maximus, comme disaient les étudiants, Maxime Charles, avec un nom comme ça, on n'a pas besoin de surnom. Non. Alors, j'avais entendu dire qu'il considérait que le succès de son apostolat s'enracinait dans l'échec de son prédécesseur. Pour en avoir le cœur net, je le lui ai demandé à la fin de sa vie. Et voici la lettre qu'il m'a envoyée, tapée à la machine par son secrétaire, puisqu'à ce moment-là, avec la maladie de Parkinson qu'il avait, il aurait été bien incapable de le faire. Après les salutations d'usage, voici les renseignements qu'il me donne. Il y avait quelques mois seulement que j'avais été nommé aumônier des étudiants de la Sorbonne, sans local, sans traitement, et en même temps vicaire à Saint-Étienne-du-Mont. Je n'en menais pas large lorsque la Providence prit les choses en main. Et tout s'arrangea. Local, sympathie des étudiants, un moment déconcerté. Et c'est vrai que, comme il me le disait un jour, j'ai eu la chance, mais je ne m'en vante pas, d'emballer des étudiants sans une raquette de ping-pong, uniquement en leur faisant des petits topos de théologie. Avec beaucoup de simplicité, il ne dit pas que les aumôniers d'étudiants doivent faire comme cela maintenant, mais à l'époque, c'était possible. Un homme se présenta à moi, et me dit être un déporté rapatrié qui avait connu au camp mon prédécesseur, l'abbé Basset. Celui-ci, que je n'ai jamais connu que par ouï dire, était un prêtre cultivé, il savait parfaitement le russe, ancien officier de marine, mais il avait un gros défaut, pour plaire aux jeunes, il était sarcastique. Et il avait si peu réussi auprès des étudiants que lorsqu'il fut arrêté par la Gestapo pour avoir milité dans Rail Résistance, il ne fut absolument pas regretté par les étudiants. Au témoignage de l'aumônier diocésain, Monseigneur Rupp. Depuis, on n'en avait plus entendu parler. L'homme que j'avais devant moi avait été son compagnon de misère au camp de déportés. J'ai oublié lequel. Victime des mauvais traitements, l'abbé Basset était sur le point de mourir. Son camarade lui demanda s'il avait quelque chose à faire dire à sa famille en France, s'il avait la chance d'y revenir lui-même. Le père Basset, avec sa brusquerie, lui dit que sa famille se moquait de lui autant qu'il se moquait d'elle. Alors l'autre insista, « Mais tu es prêtre, tu as bien un évêque. Si tu veux lui faire une commission, je m'en chargerai volontiers. » Le père dit alors qu'il n'en voyait pas la nécessité. Il avait été un peu aigri par son ministère parisien. Je pense que c'est une litote. Il avait été plus que déçu. Puis, se reprenant, il prononça ces paroles mémorables. « Je n'ai pas réussi auprès des étudiants, mais tu sais, l'Église a de la suite dans les idées. J'aurai certainement un remplaçant, que j'ignore, pour assurer cette aumônerie. Alors tu iras le trouver et tu lui diras que mon échec auprès des étudiants et cette misère du camp de déportés, cette mort douloureuse et sans gloire, je les offre à Dieu pour que lui réussisse. » Je m'expliquais alors la curieuse facilité avec laquelle mon ministère en Sorbonne commençait à s'épanouir. J'ajoute, et cela vous intéressera peut-être, que cet appui mystique d'un aîné vint rejoindre celui d'un laïc qui plus tard devint séminariste. J'avais connu au chantier de jeunesse, vous savez, cette espèce de service civil qui existait du temps de Pétain, dans la France libre, j'avais connu au chantier de jeunesse, dont j'étais l'aumônier, un gessiste de Sorbonne, dont la foi et la générosité rayonnaient d'une manière étonnante sur un milieu pourtant bien difficile. L'ayant fait libérer quelques jours avant la date officielle pour lui permettre d'entrer au séminaire universitaire de Lyon, j'ai été le témoin de sa popularité auprès de ses camarades quand ceux-ci l'accompagnèrent en grand nombre à la gare, malgré le passe-droit de son départ avancé. Donc là, au contraire, c'est un garçon qui réussit merveilleusement auprès des autres. Les adieux furent de ce type, avec un accent inimitable. « Adieu, petit Jean, tu prieras pour nous. » Or, Jean Ficheux, c'est ainsi qu'il se nommait, que je conseillais spirituellement, me faisait une telle impression de sainteté, le mot n'est pas trop fort, que je disais mon acte de contrition avant de l'entendre en confession. Il m'avait dit avec insistance plusieurs fois, « À la fin de la guerre, mon père, il va vous faire nommer aumônier de la Sorbonne. Vous n'aurez qu'à faire ce que vous faites ici au chantier de jeunesse, vous verrez, ça marchera très bien. » Et comme l'abbé Charles, qui avait commencé son ministère avant la guerre chez les ouvriers dans la région parisienne, ne pensait absolument pas être aumônier d'étudiants, il n'avait aucun titre universitaire, et c'est pas possible. Je vous dis que vous serez aumônier d'étudiants. Vous n'aurez qu'à faire ce que vous faites ici, je vous dis que ça marchera très bien. Je prierai pour cela, et vous verrez, cela arrivera. En juin 1944, j'ai été nommé, à mon grand étonnement, par le cardinal Suard, aumônier de Sorbonne. Et ce fut la merveilleuse aventure du centre Richelieu. J'appris ensuite que Jean Ficheux, devenu séminariste au Carme, avait été pris par les Allemands au moment où il essayait d'échapper au service du travail obligatoire en passant par l'Espagne. De santé assez fragile, il était mort d'inanition au camp de déportés. Le rapprochement de date permit de remarquer la coïncidence entre le jour de sa mort et la date de mon détachement comme aumônier de la Sorbonne. J'ai toujours considéré que ce que nous avons pu faire de bien était l'œuvre du père Basset et de Jean Ficheux beaucoup plus que de moi. Moi, j'aime énormément cette affaire-là. Dans l'Église, il y a ceux qui sont sur les devants de la scène, sous les feux de la rampe, qui donnent l'impression de réussir, qui écrivent des livres, qui prêchent des retraites, que sais-je. Et puis, il y a les véritables pilotes, les obscurs et sans grade. C'est extrêmement important. Moi, quand j'aide des gens en difficulté, j'ai vraiment l'impression que j'aide les vrais pilotis de mon apostolat. Et je pense souvent que du jour au lendemain, je peux attraper une hémiplégie et que je ne prêcherai plus de retraite, que je ne ferai plus grand-chose, mais j'espère que le bon Dieu me donnera de vivre intensément ce que je suis en train de dire maintenant, à savoir que ce qui compte, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas de faire des choses, ce n'est pas d'être actif, ce n'est pas d'avoir beaucoup de rendez-vous sur son agenda, que ce qui compte, c'est d'aimer. Et il y en a beaucoup qui achèvent comme ça dans leur chair et dans leur tripes de malades, ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Une contemplative me donnait il n'y a pas longtemps ce texte composé par une Clarisse, morte en 1985. « Je compare l'Église à un grand arbre. Il y a les branches, les feuilles, les fleurs. Tout ça, c'est très joli et très bien. Mais nous, les contemplatives, nous sommes les racines. Les racines, on ne les voit pas. Elles sont enfouies dans la terre. C'est par les racines que l'arbre se nourrit. Notre rôle à nous est un rôle invisible. Nous devons être inconnus du monde, cachés dans la terre divine, et c'est dans la mesure où nous serons des âmes de prière, d'humilité, de pauvreté, de sacrifice, c'est dans cette mesure que l'Église progressera. Bon, nous en sommes tous convaincus, mais il est bon de se le rappeler de temps en temps. Par conséquent, mes chers amis, si vous avez l'impression de ne plus avoir un apostolat aussi brillant, aussi efficace, aussi fécond que jadis, dites-vous que l'humble prière que vous faites, une prière difficile d'ailleurs, parce que quand on vieillit, on a beaucoup plus de difficultés à prier, on n'a plus tous ses moyens, bon, on ne sait plus se mettre à genoux, on s'endort un peu, etc. Que tout cela a une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Imaginez que des carmélites soient obligés de quitter leur monastère parce que le recrutement se tarit. Et Dieu sait si cela arrive en France actuellement. Des carmélites qui sont obligés de quitter un monastère parfois tout neuf. Eh bien, si ces carmélites quittent leur monastère dans la joie, dans la paix, je crois que ça a autant de valeur aux yeux de Dieu que le martyre des carmélites de Compiègne. Bien sûr qu'on n'en parlera pas dans l'Église, elles ne seront pas béatifiées, mais vous sentez que des carmélites qui ont vécu pendant 40 ans dans un monastère et qui quittent leur monastère avec leur baluchon, sans maugréer, sans râler, sans rouspéter, qu'est-ce que ça a de la valeur aux yeux de Dieu? Et ça permet à des communautés nouvelles de s'épanouir. C'est extrêmement important. Et je sais qu'il y a des membres de communautés nouvelles qui se rendent compte dans la foi que leur succès, qui durera ce que ça durera, que leur succès s'enracine dans le sacrifice de ces vieilles carmélites ou clarisses ou cisterciennes qui acceptent de mourir en paix.